avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, bienvenue, l'antenne vous appartient comme tous les jours à cette heure-ci. Vous commentez l'actualité dans 30 minutes, nous lancerons notre débat sur le dialogue national en République démocratique du Congo, un dialogue censé aider à l'organisation de l'élection présidentielle du mois de novembre. Alors hier, les travaux sont entrés dans le vif du sujet, on a évoqué évidemment la question du fichier électoral, fichier très controversé. Trois options ont été proposées hier après-midi, soit un toilettage du fichier, soit une révision partielle, ou une refonte totale. Quoi qu'il en soit, aucune de ces trois solutions ne permettra pas de respecter les délais constitutionnels. On a envie de vous entendre évidemment sur cette question. Réaction également sur le boycott des ténors de l'opposition. Ils continuent à ne pas vouloir dialoguer avec la mouvance présidentielle. Ils accusent d'ailleurs Joseph Kabila de chercher à se maintenir au pouvoir. Ont-ils raison de boycotter? Là aussi vos commentaires. 33 9 693 693-70 et vous continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Marc nous appelle de Niamey, au Niger. Bonjour Marc.
Bonjour Yann, bonjour à tous les invités du RFI.
Vous avez des questions sur la crise post-électorale au Gabon après la victoire contestée d'Ali Bongo Ondimba.
Exactement. Après les élections gabonaises, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique ont exigé le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote, ce que la CENAP n'entend pas faire. Alors ma question est de savoir quels moyens dispose la communauté internationale pour contraindre les autorités gabonaises à procéder au recomptage des voix.
La communauté internationale qui fait pression effectivement sur le pouvoir gabonais en appelant à un nouveau comptage des voix. Bonjour Jean-Jacques Loirne.
Bonjour Juan.
Merci
bonjour
d'être
Marc.
Avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique des RFI. Alors comme l'opposant Jean Ping, l'Union européenne, la France, les États-Unis, l'ONU demandent la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Comment la communauté internationale peut-elle obtenir gain de cause?
Mais écoutez Marc, j'ai envie de vous dire que vous posez la question que tout le monde se pose et c'est la question la plus délicate. Ce matin, on a pu entendre Ali Bongo sur notre antenne. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il persiste et signe. Alors que peut faire cette fameuse communauté internationale pour que le Gabon ne s'enlise pas dans une crise post-électorale? Je dirais tout simplement être présente, parler aux uns et aux autres, au camp d'Ali Bongo, au camp de Jean Ping. Alors ce sera tout le sens de la mission de l'Union africaine, avec à sa tête Idriss Déby, le président de l'Union africaine. Des chefs d'État africains vont donc assez rapidement, peut-être demain, au pire vendredi, se pencher au chevet du Gabon. Alors c'est complémentaire des prises de position publiques de pays comme la France. Paris, par la voix d'Emmanuel Valls, son premier ministre, a demandé qu'un recomptage se fasse. L'Union européenne aussi, Washington, l'ONU, vous en parliez, Marc, ont aussi demandé aux autorités gabonaises donc cet effort, transparence. Bon, Ali Bongo, ce matin, effectivement, a botté complètement en touche. Alors maintenant, la marge de manœuvre de cette communauté internationale, effectivement, elle est très étroite pour Ali Bongo, pour l'instant. Et même s'il est de plus en plus isolé, voyez la démission de son ministre de la Justice il y a 48 heures, pour l'instant, il est le maître à bord, en ce sens qu'il a avec lui les forces de sécurité et de l'ordre. C'est vraiment une donne essentielle. Et puis les capitales occidentales, Paris en tête, Marc, n'ont pas du tout envie de voir, je dirais, le Gabon basculer dans une longue, grave crise post-électorale. On pense bien sûr, Juan, au scénario ivoirien.
Ouais. Est-ce que ça signifie, Jean-Jacques Loirne, que la communauté internationale pourrait finalement se contenter d'un compromis?
Eh bien, on va voir effectivement ce que peut faire l'Union africaine. Donc Idriss Déby en tête est là pour décrocher un compromis, trouver une porte de sortie de crise. Alors, quoi? C'est toute la question, faire plier Jean Ping, l'intransigeant, sûr de sa victoire, forcer Ali Bongo à un nouveau décompte dans le Haut-Ogooué, son fief. Donc entre un président contesté et un président autoproclamé, on le voit bien, la marge de manœuvre est très étroite. Ce qui est certain aujourd'hui pour la communauté internationale, il n'est pas acceptable qu'un foyer de tension durable s'installe au Gabon. Le maître mot reste, bien sûr, la stabilité. Donc j'ai presque envie de dire, Marc, que la question est celle-ci aujourd'hui. Comment faire avaler et digérer la pilule Ali Bongo à tous les Gabonais qui n'ont pas voté pour lui et comment amadouer le camping. La tâche, effectivement, va être très très rude.
Effectivement, dossier à suivre et on en parlera demain dans cette émission, ce sera notre débat du jour. Qu'attendez-vous justement de cette mission de l'Union africaine? Ali Bongo disait ce matin sur notre antenne qu'il était prêt, évidemment, à accueillir cette mission de hauts responsables. Elle sera composée de chefs d'État africains, de représentants de l'Union africaine et des Nations Unies. Et vous le disiez, Jean-Jacques, pour la première fois depuis l'annonce des résultats et depuis les violences post-électorales, Ali Bongo s'est exprimé sur l'antenne d'RFI. Entretien évidemment à réécouter sur notre site RFI.fr ou sinon tout à l'heure dans Afrique Midi à 12h30 temps universel, 14h30 temps universel. On a répondu à vos questions, Marc?
Ah oui, c'est bon.
Merci à vous. Bonne journée à Niamey et merci à vous, Jean-Jacques Loirne. 10h16 à Paris, vos questions à la rédaction. Souma, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous avez, vous, des questions concernant la volonté du gouvernement français de réformer l'islam de France?
C'est cela, oui Juan. Alors, le ministre de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve, a annoncé la création de 3 structures pour relancer ce qu'il appelle l'islam des 2 pieds dans la République. Alors, moi, je me demande, Juan, quel sera le rôle de ces 3 structures et comment compte-t-elle changer l'image de l'islam de France?
Allez, un islam de France ancré dans les valeurs de la République, voilà ce que préconise Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Pierre-Olivier du Service France nous a rejoint. Bonjour Pierre-Olivier.
Bonjour Juan, bonjour Souma.
Merci d'être avec nous. 3 structures seront donc mises en place dans les prochains mois avec chacune des rôles un peu différents, hein.
Oui, effectivement. Alors, 2 rôles principaux, même s'il y a 3 structures. L'une d'entre elles aura pour but de diffuser et d'intégrer la culture musulmane dans la société française. Et puis, une deuxième structure aura pour rôle d'assurer le financement de l'islam de France.
Alors, comment seront répartis justement ces rôles?
Alors voilà, on peut déjà commencer par la Fondation pour l'islam de France, financée entre autres par des aides publiques. Son rôle est purement culturel, hein. Ça veut dire qu'elle s'occupera avant tout de diffuser, promouvoir la culture musulmane en France, par exemple. Elle pourra monter des expositions, organiser des partenariats et des événements avec des acteurs de la culture, mais aussi éditer des productions littéraires, cinématographiques. Et puis cette fondation pourra aussi prendre en charge la formation profane des imams, c'est-à-dire tout ce qui ne concerne pas le religieux, par exemple leur apporter plus d'outils pour comprendre la société française dans laquelle ils vivent, et aussi comment en France une religion doit s'intégrer dans la République. Donc vous l'aurez compris, cette fondation sera un peu l'acteur au service d'une meilleure connaissance entre les cultures en France.
Et c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, qui a été désigné pour présider cette structure. Alors, parallèlement à cette fondation laïque, l'État compte créer une association.
Oui, et c'est cette entité qui gérera tout l'aspect cultuel cette fois. Enfin, surtout le financement du culte. Le statut de cette association n'est pas encore clairement défini. On peut imaginer qu'il s'agira sûrement d'une association de loi 1901, c'est-à-dire une association qui n'a pas vocation à faire de bénéfices. Et c'est donc cette association qui sera chargée de collecter et de distribuer l'argent qui sera essentiellement des dons de particuliers, on y reviendra, qui financera l'islam de France. Cela veut dire la construction de mosquées, bien sûr, mais aussi tout ce qui concerne la formation théologique des imams.
Et cette association sera dirigée par des représentants musulmans. L'État, lui, n'aura aucun pouvoir au sein de cette association en vertu de la loi de 1905 qui concerne, je vous le rappelle, la séparation avec l'Église. Et puis, dernière structure, Pierre-Olivier, une mission universitaire.
Oui, alors c'était un peu l'inattendu, car au début, on pensait qu'il n'y aurait que 2 structures. Eh bien, une troisième structure qui aura pour rôle, un rôle culturel qui rejoindra un peu celui de la Fondation. Cette mission, en fait, devra développer l'apprentissage de l'islamologie et de la langue arabe dans les universités, notamment pour les cadres religieux, car à l'heure actuelle, la grande majorité de ces cadres religieux qui officient en France est formée à l'étranger. Cette mission devra donc créer de véritables diplômes reconnus par l'État.
Voilà, donc les 3 structures et 2 rôles essentiels. Souma, vous avez une dernière question, je crois.
Oui, bien sûr, Juan. Alors, ma deuxième question, comment le gouvernement français compte-t-il intervenir sur le financement des maisons de culte et de la formation des imams de France?
Ouais, d'autant que le gouvernement, Pierre-Olivier, veut revoir certaines règles pour limiter justement les financements venant de l'extérieur, des financements souvent considérés comme trop opaques.
Absolument, alors c'est un peu toute la question et c'est la raison d'être de cette association pour l'islam de France. En fait, Souma, le gouvernement ne veut pas intervenir directement sur le financement des lieux de culte. D'ailleurs, il ne peut pas, car vous l'avez dit, Juan, depuis 1905, la France est un pays laïque, est aucun culte, pardon, ne peut donc être financé avec de l'argent public. En fait, ce que le gouvernement veut tenter de limiter, c'est effectivement la part d'investissement étranger qui finance l'islam en France. Actuellement, on sait qu'environ 15% des financements de mosquées en France proviennent de l'étranger. Et certains voient dans ces dons un moyen pour certains pays, comme l'Arabie Saoudite par exemple, eh bien de développer un islam plus dur, plus radical sur le sol français. Alors, pour mettre un terme à cela, le ministère de l'Intérieur, qui est aussi le ministère des Cultes, a demandé à ce que les dons de l'étranger soient tout simplement interdits.
Ce sont donc uniquement des dons français, uniquement des Français qui pourront financer le culte musulman ?
Alors c'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement. Les particuliers et les entreprises françaises pourront faire des dons sans montant maximum. L'idée d'une contribution de la filière industrielle et agroalimentaire du halal a également été évoquée. Donc a priori, oui, le financement de l'islam de France sera 100% français. Mais cela dit, vous le savez, il est tout de même difficile d'interdire un virement d'argent entre particuliers. Un Marocain, par exemple, pourrait décider de transférer 100 euros sur le compte d'un ami ou d'un cousin français, et ce dernier pourrait ensuite les reverser sans aucun problème à l'association et ainsi financer l'islam de France. Donc, ouais. À voir.
Merci beaucoup Pierre-Olivier. Bonne journée Souma. Merci de nous avoir appelé 10h21 à Paris, 33 9 693 693 70. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, notre débat du jour consacré au dialogue national en République démocratique du Congo. Les travaux ont débuté jeudi. Hier, on a beaucoup parlé à Kinshasa du fichier électoral. Vous le savez qu'il est très très controversé. En tout cas, les trois options qui ont été posées sur la table pour essayer de régler le problème du fichier électoral, eh bien, aucune de ces solutions ne permettra de respecter les délais constitutionnels. Je vous rappelle que l'élection doit se tenir au plus tard à la fin du mois de novembre, puisque le second et dernier mandat du président Kabila expire au mois de décembre. Comment sortir de l'impasse politique en RDC ? Vous continuez évidemment à nous rejoindre et à réagir sur les réseaux sociaux. Maria Lancar, la chef de la rédaction brésilienne d'RFI, est à mes côtés. Bonjour Maria.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. On a encore ce matin des questions sur Dilma Rousseff, destituée la semaine dernière au terme d'une procédure pour le moins controversée. Cédric nous appelle de Bangui. Bonjour Cédric.
Bonjour Monsieur Juan. Bonjour les auditeurs de RFI.
On vous écoute.
Oui, j'ai plusieurs questions sur la décision de Madame Dilma Rousseff. La première est de savoir si elle a la possibilité d'avoir des recours.
Ah, des recours. Le réseau téléphone n'est pas bon avec Bangui. Maria Lenkar, c'est une bonne question. C'est vrai que elle dénonce depuis des mois et des mois, mais là, pour le coup, après le vote du Sénat la semaine dernière, elle dénonce vraiment un coup d'État parlementaire qui a été fomenté par l'opposition de droite. Elle n'entend pas rester les bras croisés. Elle ne va pas se contenter de cette destitution.
Oui, très bonne question, c'est vrai, Juan. Elle a déjà fait appel de la sentence et de la procédure. Elle demande l'annulation de la procédure à la Cour suprême brésilienne. Ce recours a peu de chances d'aboutir parce qu'au Brésil, il faut savoir que la Constitution permet au Sénat de destituer un président dans ses cadres précis, avec une procédure longue. Tous les rituels ont été respecté, soi-disant, mais cet appel, ce recours à la Cour suprême a peu de chances d'aboutir, parce que le membre de la Cour suprême, il y a 11 membres, ils n'ont pas du tout envie de contester une décision souveraine du Sénat. Ça crée quand même un précédent et ils veulent garder cette supposée indépendance entre le pouvoir législatif, exécutif et parlementaire, en sachant que beaucoup de juristes voient bien que ça, un crime de responsabilité n'a pas été commis, en fait. C'est très polémique. Même la Constitution de 88, que c'est la Constitution brésilienne actuelle, dit pas exactement ça. Ça, c'est très contesté, que le maquillage, la manipulation comptable dont elle est accusée, c'est pas considéré vraiment un crime de responsabilité.
En tout cas, elle a peu de chances d'obtenir gain de cause. C'est ce qu'il faut retenir de votre explication. On nous demande sur la page Facebook de l'émission si Dilma Rousseff pourra revenir sur le devant de la scène, d'autant qu'elle n'a pas été privée de ses droits civiques.
Oui, c'est une très bonne question aussi, parce que ça, c'est objet d'une grande polémique au Brésil en ce moment. Ça veut dire que c'est très contradictoire. elle est destituée, mais en même temps, elle peut devenir sénatrice, députée, etc.
Donc elle peut se présenter à de nouvelles élections.
Voilà, parce qu'il y a une partie du vote qui a permis ça. Mais c'est très contesté, l'opposition est en train de, déjà de contester. Et elle-même profite de ça pour dire, écoutez, il y a une contradiction déjà. Ça, donc, on verra, mais je...
Vous parlez d'élections sénatoriales, législatives. Pas question, j'imagine, pour elle, d'essayer de briguer la magistrature suprême en 2018, je crois, lors de la prochaine élection présidentielle.
Écoutez, pas question, même si, par la loi, rien n'empêche. C'est vrai que je vois pas du tout Dilma dans une dispute politique. Elle veut garder ses proches, disent que Dilma veut garder ses droits, par exemple pour être professeur des universités, éventuellement pour avoir... peut-être, comme députée. Moi, je vois pas, parce qu'elle a pas de charisme.
En tout cas, elle a quitté Brasilia hier.
Exactement.
Elle retourne, il me semble, à Porto Alegre, là où elle a bâti toute sa carrière politique. On suivra évidemment de près. J'imagine que les médias et les journalistes brésiliens suivront de près les pas de Dilma Rousseff dans les prochaines semaines. On a encore une question concernant la situation politique au Brésil. Souleymane, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour RFI et ses éditeurs.
Vous êtes à Kifa, en Mauritanie.
Oui, Kifa, en Mauritanie, à 600 km de notre capitale.
Très bien.
Donc moi, j'ai une question en ce sens, qui est la suivante. Est-ce que Michel Temer, vu son impopularité, pourra-t-il gouverner le Brésil pour les 28 mois restants, avec l'appui du Parlement et les autres partis?
Alors Michel Temer, qui est le successeur donc de Dilma Rousseff, qui réalise, j'ai envie de dire, Maria Alencar, enfin son rêve, celui de devenir président de la République du Brésil. Il est très impopulaire. Il est aussi impopulaire finalement que Dilma Rousseff.
Tout à fait, tout à fait. Et surtout qu'il n'a pas été élu, ce qui complique bien sa situation.
Il était le vice-président de Dilma Rousseff, je rappelle ça aux
auditeurs.
Voilà,
exactement. Allié de Dilma Rousseff, d'un parti allié, et qui l'a trahi. En fait, il n'est pas populaire du tout. Il y a beaucoup de manifestations. Aujourd'hui, c'est la fête nationale au Brésil. Il y a une grosse manifestation contre Temer. Donc, il y a 66% des Brésiliens qui disent ne pas faire confiance à Temer comme président. Par contre, en revanche, Temer, il est un animal politique. Il connaît les congrès, les parlements complètement.
C'est un vieux renard de la politique. Ça fait, je crois, 15 ans qu'il dirige ce petit parti, mais un petit parti qui, avec lequel, qu'on soit de droite ou de gauche, on est obligé de composer. C'est-à-dire qu'il est de tous les gouvernements depuis la fin de la dictature.
Exactement. C'est pas un petit parti, c'est un grand parti,
oui,
mais qui arrive
petit
jamais.
Petit parti par les intentions de vote. C'est-à-dire qu'il obtient quoi à chaque fois aux élections? 3-4%, pas plus.
Ils ont quand même beaucoup de gens au congrès.
Oui, c'est vrai.
Mais ils n'arrivent pas à être président. Enfin, ils n'arrivent pas à être élus. Mais bon, il est un animal politique. Il a quand même les congrès. Maintenant, il a réussi à monter cette coalition avec d'autres. Et donc, il a quand même la confiance des marchés financiers, des hommes d'affaires. En fait, Temer est vu comme le mal nécessaire pour certains secteurs. Il veut se montrer comme l'homme de la situation. Mais, enfin, je pense que les manifestations vont continuer. La pression va continuer parce que Temer représente aussi et surtout une classe politique brésilienne complètement discréditée.
Effectivement, et notamment corrompue, puisque le nom de Temer, l'actuel président, est cité dans le scandale de corruption Petrobras. Petrobras, c'est bien
exactement.
Ça.
Exactement.
En deux mots, Maria Alencar, et on rend l'antenne évidemment à la rédaction pour le point complet sur l'actualité, il ira jusqu'au bout où les manifestations dont vous parliez à l'instant l'obligeront à un moment donné à organiser des élections anticipées.
Écoutez, ça, c'est impossible de dire à un État, mais bon, la population, les rues sont en train de demander ça. Mais les rues demandaient il n'y a pas longtemps la destitution de Dilma. On verra si les élections anticipées maintenant commencent à être une pression unanime. Il y a beaucoup de secteurs qui commencent à demander ça.
À suivre donc. Merci Maria Alencar d'être venue répondre à quelques questions sur la situation politique au Brésil. À suivre le journal et on revient dans 10 minutes pour parler du dialogue national au Congo Kinshasa. Tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé.